France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique sur France Info. Comme chaque samedi, à la même heure, comme son nom l'indique, c'est à 8h30. C'est avec vous, Jannick Halimi, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et comme chaque semaine, c'est vous qui posez la première question à notre invité, Florian Philippot, président des Patriotes.
Florian Philippot, bonjour.
Bonjour.
Une première question, je voudrais vous faire réagir sur un dossier d'actualité assez chaud qui porte sur les prisons avec les blocages que vous connaissez. La réponse que vient semble de donner le gouvernement aujourd'hui en prévoyant un millier de postes de surveillants de prison en plus. Je voulais juste vous demander une question générale. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à l'ouverture de nouvelles places de prison ou au contraire alléger dépénaliser certains délits pour faire sortir certains prisonniers, si je puis dire, de leur geôle.
Non, je suis plutôt favorable à la création de places de prison. Pour une raison assez simple, c'est qu'au regard de notre population, nous avons un parc immobilier carcéral, en quelque sorte, qui est inférieur à la moyenne européenne, vous voyez, à laquelle on se réfère souvent. Et bien là, on ferait bien de s'y référer parce que nous sommes très en dessous. Et il manque à peu près presque 40 000 places de prison en France pour être simplement à la moyenne. Vous voyez, pas du tout le tout carcéral, mais simplement être à la moyenne. Il faudrait construire, et il faut le faire. On a construit de nouvelles prisons, mais généralement pour remplacer de la fermeture d'anciennes prisons. Alors c'est bien de réhabiliter, de rénover, bien sûr, mais ça n'ajoute pas de place. Or moi, j'ai visité plusieurs fois des établissements pénitentiaires, que ce soit maison d'arrêt ou maison centrale. Maison centrale, il y a moins de problèmes de surpopulation, mais maison d'arrêt, beaucoup. Et c'est vrai qu'il manque des places de prison. Il manque
combien,
aussi,
d'après vous?
Moi, j'ai dit à peu près 40 000. Mmh. Je pense qu'il faut aller vers 40 000
c'est
places.
Beaucoup.
Oui, mais ça nous mettrait aux alentours de la moyenne de ce que devrait avoir la France, sans tomber du tout dans le tout carcéral. Mais on doit plutôt envoyer ce signal-là que de dire, bah, écoutez, on n'a plus de place, donc on vous laisse dehors. Je crois qu'on ne peut pas se permettre, vu déjà le niveau d'insécurité dans notre pays.
L'actualité dont parlait Jannick, c'est plusieurs agressions de surveillance ces derniers jours, dont hier à Borgo en Corse, où s'est rendue la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Elle s'est exprimée cette semaine chez nos confrères de France Inter pour évoquer le suivi et la gestion des détenus considérés comme radicalisés. Écoutez.
Nous avons, lorsqu'une personne a été condamnée pour terrorisme, il est d'une part évalué pendant 4 mois dans un quartier d'évaluation et à partir de là, il peut être placé soit à l'isolement, il peut être placé dans des quartiers pour détenus violents, pour détenus radicalisés. Certains sont placés en détention ordinaire et suivis de manière particulière.
Pour compléter la question de Jannick tout à l'heure, est-ce que sur la forme finalement, les détenus de ce type, est-ce que la France est prête à les accueillir correctement?
Non, à l'évidence non. Quand vous discutez avec les administrations ou leurs représentants syndicaux, eh bien, ils vous disent que non. Il y a des choses qui ont été faites, bien sûr, mais c'est pas du tout suffisant. Il y a un problème.
Dans le Pas-de-Calais, par exemple, c'était une prison ultra sécurisée, normalement.
Oui, mais il y a globalement un problème de moyens humains, de moyens matériels pour l'administration pénitentiaire. Je vais même vous dire, je pense qu'on ferait bien de réfléchir à l'organisation de tout cela. On sait que l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Moi, je serais assez favorable, après avoir écouté beaucoup de gens qui me l'ont dit là-bas, à ce que ce soit intégré au ministère de l'Intérieur.
Les prisons.
Oui.
Ah ben là, c'est
oui.
Quand même une révolution
ça
d'ordre
un débat.
Constitutionnel,
c'est un débat,
de principes fondamentaux.
Non, c'est un débat qui a eu lieu, il y a déjà eu d'autres modèles dans l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, ça aurait un peu plus de sens de mettre l'administration pénitentiaire sous la dépendance, la tutelle
et
du ministère.
Et qu'est-ce que ça changerait du ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce que ça changerait pour vous?
Par exemple, pour la communauté du renseignement, c'est très important, puisque l'administration pénitentiaire demande à être beaucoup mieux intégrée dans la communauté du renseignement. Elle capte de l'information en prison. Et souvent, cette information n'est pas suffisamment exploitée, ce qui est extrêmement dommage, notamment dans les affaires, voire dangereux, dans les affaires de terrorisme islamiste ou de radicalisation. Sur la lutte contre le terrorisme, sur la lutte contre
justement,
la grande criminalité. Je vais vous dire, on doit s'y préparer, parce qu'il y a beaucoup, là, du fait de l'effondrement heureux de Daesh, qui est en train d'avoir lieu. On sait qu'il va y avoir des retours de plus en plus nombreux d'Irak, de Syrie, de djihadistes. Alors ceux qui ne sont pas français, ils ne doivent pas rentrer en France, que les choses soient claires. Ou ceux qui ont une double nationalité, il faut leur enlever leur nationalité et on ne les accepte pas en France. Mais ceux qui sont simplement français, ils vont bien rentrer en France. Il faut qu'ils soient incarcérés immédiatement et donc il faut bien adapter les établissements à leur incarcération.
Mais est-ce que vous êtes pour des incarcérations extrêmement spécifiques pour les terroristes et pour les islamistes radicaux en l'occurrence, ou est-ce que ce sont des cas graves, dangereux, comme dit la ministre, mais analogues aux autres?
Je veux dire, terroristes ou potentiels terroristes parce que radicalisés, ils doivent être isolés de toute façon.
Mais avec un traitement spécifique pour les radicaux religieux?
Bien sûr, parce qu'on sait qu'ils seront naturellement dans un prosélytisme. et qu'on ne peut pas se permettre une sorte de contamination djihadiste au sein des établissements. Il y en a déjà suffisamment, c'est un vrai problème.
Alors, l'autre temps fort de cette semaine, c'est évidemment l'abandon du projet de deuxième aéroport à Notre-Dame-des-Landes par le gouvernement. Vous avez d'ailleurs tweeté à ce sujet, je vous cite, « La moins mauvaise décision prise aujourd'hui, l'écologie devait l'emporter ». Pourquoi est-ce que vous pensez que l'État a bien agi en la matière ? Est-ce que c'est vraiment, selon vous, pour des raisons écologiques ou plus pragmatiques ? Et est-ce que vous considérez, comme d'autres de vos collègues politiques, que les pouvoirs publics ont cédé face aux extrêmes de la ZAD ? Ça fait beaucoup de questions en une.
Oui, je vois ça. Non, alors moi, personnellement, mon analyse m'a toujours mené à penser que Notre-Dame-des-Landes n'était pas une bonne solution pour des raisons écologiques. Il y a des zones humides et l'agrandissement de Nantes est largement suffisant. On doit aller vers cette voie. Il faut le faire, ceci dit. Sinon, on va avoir un problème. Mais évidemment, ça ne veut pas dire deux choses. D'abord, il faut évacuer la ZAD. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire.
Est-ce que le gouvernement a raison de ne pas évacuer immédiatement et de donner un délai aux ZADistes pour partir avec des négociations qui s'installent ?
Moi, je veux bien qu'on leur donne un petit délai. Pas de problème. Mais il faut que ce délai soit respecté. Donc, je crois, rendez-vous le 30 mars, puisque c'est le délai qui a été donné, la fin de la trêve hivernale, comme on dit. Très bien. Mais si le 30 mars, il ne se passe rien ou si c'est très mou, alors ça posera un énorme problème parce qu'on saura qu'il suffira. Il suffira d'occuper une zone pour faire céder l'État. Et ça, c'est problématique. Mais donc, il faut évacuer la ZAD. Et deuxièmement, il ne faut pas que l'État abandonne son rôle d'aménageur du territoire. Il faut même probablement qu'il le retrouve.
Aménageur... C'est ce que semble vouloir faire le gouvernement, là.
Oui, mais très concrètement, aménager, structurer des territoires qui sont dans les zones rurales, isolées, dans les lointaines périphéries des villes, je ne les oublie pas non plus, où les transports passent moins, où les services de sécurité, où les services de santé passent moins. Ben ça, ce sont des grosses infrastructures. Un hôpital, une gare, une route, ou eh bien ça, hein, une gendarmerie. Ça, c'est le rôle de l'État. Et ça, c'est le rôle de l'État aménageur du territoire. Donc ça ne veut pas dire, si on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, ça ne veut pas dire que l'État doit cesser d'agir dans nos territoires.
On est ensemble, évidemment, jusqu'à 9h sur France Info avec Jeannick Halimi, avec Florian Philippot. Tout de suite, à 8h40, on va en parler des Patriotes. C'est l'info avec David Doba.
Et les tractations de ces dernières heures n'y auront donc rien fait aux États-Unis. Les Républicains n'ont pas réussi à convaincre suffisamment de démocrates pour éviter le shutdown, sorte de défaut de paiement. Concrètement, eh bien, à partir de lundi, une partie des administrations devrait partiellement fermer. Principal point de blocage, la régularisation de plus de 700 000 jeunes arrivés illégalement sur le territoire américain. C'était il y a plusieurs années. Des propositions pour tenter de sortir de la crise. Un texte a été proposé hier au syndicat des personnels pénitentiaires ainsi qu'à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Parmi les propositions, notamment la création de 1100 postes de surveillance sur les 4 prochaines années ainsi qu'un régime de détention spécifique défini pour les détenus terroristes et radicalisés. L'UFAP-UNSA salue des avancées. Force ouvrière parle de trahison. Suite de la 22e journée de Ligue 1, aujourd'hui 6 matchs au programme de ce samedi, notamment Nantes-Bordeaux. Hier, Marseille a réalisé la belle opération en s'imposant à Caen 2-0, des Marseillais qui reprennent donc provisoirement en tout cas la deuxième place du classement. Adrian Manarino et Julien Beneteau éliminés de l'Open d'Australie ce matin, ils ont été sortis par Dominic Thiem et par l'Italien Fonini. On suivra tout particulièrement tout à l'heure, ce sera autour de 10h30, l'arrivée sur les courts de Richard Gasquet, il sera face à Roger Federer.
8h30 politique sur France Info, toujours avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, et notre invité Florian Philippot, président des Patriotes. Grosse journée pour vous, Florian Philippot, déjà parce que vous êtes à France Info, mais vous allez aussi soutenir un peu plus tard Sophie Montel, qui a quitté comme vous le Front National dans la législative partielle du territoire de Belfort. Vous avez bon espoir qu'elle devienne la première parlementaire de votre mouvement ?
Ce ne serait pas la première. Nous avons déjà, nous avons déjà 3 députés européens, mais nous avons à l'Assemblée nationale José Evrard, qui est déjà député du Pas-de-Calais. Mais elle serait une parlementaire de plus. Bon, écoutez, ce serait tout à fait extraordinaire, parce que nous avons 3 mois et demi d'existence. Mais pourquoi pas ?
Il y a peu de chances pour vous, pour elle.
Il y a moins de chances, mais en même temps, vous savez, si chacun se mobilise, si chacun y va et va aux urnes, et effectivement, moi, j'y vais là dans la journée. On va aller sur le terrain voir les gens. On va visiter d'ailleurs aussi une SPA parce que Sophie dirige une association de protection animale et nous sommes très attachés à cette cause-là aussi. Et puis on va se battre par exemple sur Alstom, la nationalisation d'Alstom.
Enfin, vous allez vous battre surtout contre un candidat
pour nous,
Front National.
Qui pour nous n'est pas abandonné, cette nationalisation d'Alstom. Et la stratégie industrielle de la France, pour nous, n'est pas abandonnée. Elle est très importante pour ce 21e siècle.
D'accord, mais vous allez, comme disait Mathéou tout à l'heure, vous allez croiser le fer avec un candidat du Front National. Sur quel thème allez-vous vous opposer fondamentalement?
Mais le candidat du Front National est un candidat parmi d'autres.
Non, on est obligé de vous poser la question, vous comprenez pourquoi quand même,
oui,
par rapport à votre parcours.
Oui, mais vous savez, nous, on parle bien sûr à des déçus du Front National, des déçus de ce qui s'est passé, le débat entre deux tours, la suite, les revirements, la période actuelle où on voit bien qu'ils ont perdu toute boussole, où ils ont renoncé même à la souveraineté, à l'indépendance nationale, au combat contre l'Union européenne et donc au combat pour l'emploi, pour l'écologie, pour la maîtrise de nos frontières, etc., etc. Bien sûr, mais en même temps, il y a des gens, nous parlons à des gens qui viennent de la droite, qui viennent du centre, qui viennent de la gauche et des gens qui se disent, attendez, comment on va faire face à Macron? Oui. Comment on construit quelque chose de solide? Il y a les patriotes. Les patriotes, eux au moins, ils sont dans l'opposition et dans l'alternative sérieuse à Macron. Eux, ils ne sont pas tous les quatre matins en train de suivre les babales que lance le gouvernement. Alors, c'est le vaccin un jour, avec un discours semi-complotiste chez certains, qui n'est pas très responsable. Le lendemain, c'est les 80 km/h. Le surlendemain, c'est les compteurs Linky ou je ne sais quoi. Non, soyons sérieux. Alors... soyons sérieux. Macron fait du mal à l'industrie française, fait du mal aux salaires, aux retraites, fait du mal à notre culture française, à notre souveraineté nationale. Comment on y répond? Quelle alternative patriote on lui propose? C'est ça notre travail. C'est un travail moderne, c'est un travail ouvert. Ben, c'est le travail de Sophie Montel dans cette circonscription. Mais aussi, vous savez, il y a une autre partielle le même jour de Denis Cornet dans le Val-d'Oise, que je soutiens également et j'y serai la semaine prochaine.
J'aimerais vous faire réagir à un extrait. Écoutez ce que disait Marine Le Pen au sujet de votre départ en septembre. On va parler de ligne politique, hein, plus que de personnes. Écoutez.
Je sais que Florian va perdre son énergie, je sais très bien qu'il n'a pas, et je pense qu'il le sait aussi, d'espace politique, pour une raison simple, c'est que quand je dis que nous avons eu un coup de foudre intellectuel, c'est parce que nous pensons la même chose. C'est pour ça que lorsqu'il dit aujourd'hui que son départ va entraîner un changement de ligne, je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est faux.
Alors c'était le 22 septembre sur BFM et RMC, mais sur la question de la ligne politique, pour prolonger ce que vous étiez en train de dire, qu'est-ce qui vous sépare du FN et quelles sont les thématiques que vous voulez porter, notamment avant votre congrès qui sera dans un mois à Arras?
Mais nous sommes, nous, favorables, et c'est l'analyse que j'ai faite et que beaucoup ont fait. Le Front National n'y arrivera jamais. C'est tout.
N'y arrivera jamais à quoi?
Au pouvoir. N'y arrivera jamais.
Parce que vous y arriverez.
Mais nous bâtissons, je suis lucide, hein, on a 3-4 mois d'existence, on n'y arrivera pas comme ça, demain, par un claquement de doigts, on travaille. On construit un patriotisme moderne, crédible. Les cul-de-sac, que ce soit Front National, France Insoumise, qui ne mènent à rien, qui peuvent faire un peu de bruit, mais qui ne mènent à rien, et tout le monde le sait en réalité, c'est ça qui est terrible, qui mène simplement à avoir 40 ans de Macron et consorts au pouvoir, eh bien ça doit cesser. Maintenant, il faut aller vers un patriotisme connecté, vous voyez une grosse différence, connecté à la société française de 2018. Moi, je suis ouvert sur les questions sociétales. Moi, je ne vais pas remettre en cause le mariage pour tous. Moi, je pense qu'on a un vrai combat écologique à mener.
Est-ce que vous êtes pour la suppression des menus de porc dans les cantines scolaires, puisque vous abordez le sociétal?
Oui, mais
d'un mot, parce qu'on va revenir quand même sur la question de Mathéou.
Non, j'ai bien compris ce qu'ils avaient fait à Beaucaire, puisque vous faites référence à cela. Ils refont le coup des mairies front de 1900.
Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression des menus de porc?
Non, je ne suis pas pour qu'on ouvre une polémique là-dessus. Il n'y a pas de souci là. La plupart du temps, parce que moi j'ai toujours connu des cantines scolaires, y compris de mon temps quand j'étais en école primaire publique, où il y avait généralement deux choix. C'est
bon,
tout.
Donc
et donc on n'a pas besoin de créer une polémique pour une polémique. Sinon on retombe, et ils retomberont dans leur stratégie 1995, où les communes étaient juste là, les communes du Front National, pour faire des polémiques régulièrement, mais ça ne menait
est-ce
à
que,
rien.
Est-ce pour...
Vous voyez, c'est ça le patriotisme moderne, aller sur l'écologie, la santé, les déserts médicaux. Moi je vous donne une mesure concrète. Vous voulez des différences, mais il y en a beaucoup. Une mesure concrète. Moi, je voudrais qu'on oblige les médecins libéraux, on oblige à aller exercer au moins 5 ans dans un désert médical. Il n'y a pas de raison que les médecins libéraux fassent ce qu'ils veulent, alors que les infirmiers et les pharmaciens, eux, ils aient des obligations réglementaires.
D'accord.
En échange de faire leur métier,
très bien,
et ils seront très bien accueillis.
Très bien. Très bien, très bien. On a compris. Juste pour en revenir à la ligne avec le Front National, votre ligne et la différence avec le Front National. On sait qu'il y a, semble-t-il, une ligne de fracture, de fissure, en tout cas, qui a poussé à votre départ, qui est sur l'Europe. Est-ce que vous estimez que le Front National a évolué sur l'Europe? Et vous, quelle est votre position très précise sur l'Union européenne et la zone euro?
Ma position est très simple. Je suis pour la sortie de la France de l'Union européenne.
De l'Union européenne, article, et donc de la zone euro, bien évidemment.
Il y a un article dans l'article 50 dans les traités pour le faire, et donc de la zone euro. Je suis pour que la France soit un pays libre, ce qui signifiera que nous pourrons décider de notre politique, comme le vont le faire les Britanniques et comme ils le font de plus en plus. Je vous signale que si eux, demain, veulent interdire le glyphosate, ils ont le droit de le faire, pas nous.
Et vous...
S'ils veulent interdire les OGM, ils ont le droit de le faire,
et
pas
vous
nous.
Pensez que
S'ils
Marine
veulent
le Pen
maîtriser leurs frontières, ils ont le droit de le
et
faire, pas
nous. Et
vous
pensez que Marine Le Pen et le Front National ne sont plus sur une ligne aussi claire par rapport à l'Union et par rapport à la zone euro?
Ça n'est pas que je le pense, c'est qu'ils l'ont dit.
D'accord.
Ils veulent réformer de l'intérieur. J'ai même vu un document interne, là. Ils veulent conjuguer l'idée d'européenne et l'idée de nation. C'est beau comme du Macron. Mais enfin, je veux dire, tout le monde dit ça aujourd'hui.
Oui, mais
tout
on
le
a
monde
souvent...
dit, et ça fait même 40 ans que le PS, les Républicains à l'époque, UMP ou RPR, etc., et maintenant le Front National, mais aussi En Marche, la France Insoumise, disent « on va réformer de l'intérieur ». Non, ça c'est un mensonge. Moi j'aime pas, moi je fais de la politique, vous voyez, une grosse différence aussi, avec beaucoup d'autres, pas que le Front National. On fait de la politique avec de la sincérité. Voilà. Moi, je suis pas là pour essayer de...
Oui, mais avec de l'efficacité aussi, monsieur Philippot.
Eh bien,
on a souvent dit que la ligne europhobe du Front National que vous incarniez lorsque vous étiez aux côtés de Marine Le Pen était un des plafonds de verre du Front National qui empêchait le Front National, justement, de progresser, notamment d'arriver peut-être, à l'Élysée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous aussi de vous cogner sur ce plafond de verre?
Il n'y a pas eu plus forte progression. Et tout le monde le sait, le voit, de ce parti, qu'entre 2011 et 2017. Il y a pas, à toutes les élections, on a battu, on a explosé les records. Donc ne me dites pas que ce n'était pas efficace. Mais ceci dit, est-ce que ceux qui vous expliquent depuis des années et des années qu'on va réformer de l'intérieur de l'Union européenne, y compris les gouvernements, qu'on va soi-disant réformer la directive détachement des travailleurs, qu'on va soi-disant empêcher le traité CETA avec le Canada, etc., le bœuf aux hormones canadien...
Il n'y a pas de plan B pour...
Eh bien, alors... ils n'y arrivent jamais. En réalité, ils mentent. En réalité, ils demandent, parce qu'au dernier moment, c'est toujours soit l'Allemagne, soit la Commission européenne, soit la BCE, c'est-à-dire tous ceux qui nous mettent sous tutelle qui décident. Ça ne veut pas dire qu'on sera seul au monde. Moi, je suis au contraire pour qu'on redécouvre le monde. Les coopérations industrielles, d'innovation, scientifique, culturelle, dans l'Europe et dans le monde.
En dressant des barrières, tout de même.
En ayant des frontières et des lois souveraines, bien sûr, mais ça c'est la démocratie, mais pas des barrières. Non, moi je suis pour cette coopération et j'ai l'impression que la religion européiste nous a coupé du monde. On regarde tous les matins ce qui se passe à Bruxelles et Berlin, mais on oublie de regarder ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique et dans le reste du monde. Or, la France y est présente. C'est quand même dommage.
Allez, on continue à discuter dans quelques secondes pour France Info, 8h30 politique. Avant cela, 8h50, on retrouve David Doba pour l'info.
Et tout s'est joué à une seule petite voix, 50 contre, 49 pour. Le Sénat américain bloque le prolongement à court terme du financement du gouvernement fédéral. Conséquence, eh bien, à partir de lundi, des centaines de milliers de fonctionnaires vont se retrouver au chômage technique. Les administrations les moins importantes vont tourner au ralenti. C'est donc une véritable partie de bras de fer qui s'engage entre Donald Trump et les démocrates. Force ouvrière pénitentiaire continue d'appeler à déposer les clés et à cesser le travail aujourd'hui dans les prisons françaises. De son côté, l'UFAP UNSA évoque des avancées dans les négociations. Un projet d'accord a été soumis à la ministre de la Justice hier ainsi qu'au syndicat. Il prévoit notamment la création de 1100 postes d'ici 2022. Autre mesure annoncée, un régime de détention défini pour les détenus terroristes et radicalisés. Dans Ouest France, Benjamin Griveaux revient sur l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou plus précisément sur les travaux de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Selon lui, ils débuteront avant la fin du quinquennat. L'aéroport doit être modernisé et de nouvelles voies de dégagement construites autour des pistes. Et puis le sort des deux Corées fixé aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue sportif, réunion à Lausanne avec le Comité Olympique International pour valider la possibilité que les athlètes sud et nord-coréens défilent ensemble sous un même drapeau unifié à l'occasion des JO d'hiver.
Info. 8h30 politique sur France Info avec Yannick Halimi et avec Florian Philippot. On va pas passer la matinée sur le FN, mais vous y étiez quand même encore pendant la campagne. Il y a eu des informations publiées cette semaine par Mediapart et BuzzFeed, notamment une selon laquelle le FN aurait fabriqué toute pièce une fake news visant la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, un ex de France Télévisions qui témoignait, qui serait en fait un proche du FN. Comment vous réagissez? Est-ce que tout cela est faux? Et BuzzFeed dit même que tout cela aurait été monté par votre frère Damien, comment vous réagissez?
C'était monté par l'équipe de campagne, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il crée des polémiques maintenant. D'ailleurs, il faut lire un excellent article de Libération sur cette histoire, les fausses fake news, comme ils ont titré il y a 2-3 jours, en disant c'était une parodie, mais c'était les médias disaient que c'était une parodie. Et 6 mois plus tard, on dit que c'était en fait une fausse information.
Bon, c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qui est délou parce que...
Mais c'était totalement bidon, mais c'était une parodie.
C'était pas clair, c'était fait. C'était vraiment pas clair, c'était une parodie.
C'est que tous les observateurs à l'époque avaient compris, mais ils comprennent plus aujourd'hui. Enfin, tout ça est bizarre. Mais limite, c'est pas très intéressant, mais pas très important, mais c'est amusant sur la. Attention au totalitarisme aussi, anti-fake news, attention à la loi Macron qu'il veut mettre en place de contrôle et de censure d'Internet pendant les campagnes électorales, parce que ce genre d'exemple, ça nous montre qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez moi, j'ai trouvé une autre fake news. En 2016, Macron disait, on retrouve dans les articles de presse, je crois qu'il y a une dépêche AFP, si le Royaume-Uni choisit le Brexit, on laissera partir les migrants au Royaume-Uni. Ils ont choisi le Brexit et c'est pas du tout ce qui se passe, on l'a encore vu hier. Donc c'était une fake news. Donc selon la loi Macron qui va venir, il aurait dû être censuré à l'époque. On aurait dû censurer et fermer les sites internet qui relayaient cette fausse information. Vous voyez, comme quoi la liberté d'expression.
C'est un peu de l'amalgame tout de même là que vous faites, non ?
Non, mais j'explique par des exemples, bien sûr.
Les risques d'une telle loi.
Bien sûr, les défauts de la liberté d'expression sont quand même supérieurs aux risques de la censure et d'une censure encore plus aggravée que celle que nous connaissons.
Lorsque nous connaîtrons les termes de ce projet de loi, mais vous parliez de Calais, des réfugiés, des immigrants. Justement, je voulais vous poser une question. La fameuse circulaire Collomb, n'est-ce pas, qui permettrait de faire le choix, le tri, pour employer un mot horrible, entre les vrais réfugiés qui auraient droit au droit d'asile et ceux qui n'y auraient pas droit. Est-ce que vous êtes pour le retrait de cette circulaire, comme le demandent beaucoup d'associations, d'opposants à droite, à gauche
Non, bien sûr. Mais non.
Vous n'êtes pas pour la suppression,
non,
le retrait de la circulaire.
Cette circulaire, vous savez, ça me fait penser à l'époque d'enfumage sarkozyste, où tous les 4 matins, on nous annonçait quelque chose de soi-disant terrible dans la politique d'immigration et de sécurité de Nicolas Sarkozy. En réalité, on voyait bien que le laxisme continuait. Nous continuons.
Donc vous pensez qu'elle sera inefficace à faire retourner les non-réfugiés dans leur pays.
C'est le mot tri qui fait peur. Mais ça, il est utilisé à dessein pour faire peur. Allez, mettons sélection, il fera déjà moins peur. Vous voyez, tout ça, c'est de la sémantique. Il n'y a rien derrière. Nous sommes un pays qui n'a pas de frontières nationales, qui ne maîtrise même pas, non plus, comme l'écologie, comme l'industrie et tout le reste, sa politique d'immigration. En dernier ressort, et tout le monde le sait dans le monde politique, c'est le juge européen qui décide toujours.
Donc vous êtes pour, bien sûr, revenir sur les accords de Schengen.
Mais oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas pour mettre des barrières, pour mettre des murs. Je vois qu'on met des murs à mesure que nous n'avons plus de frontières nationales. Moi, je vois comment se sont passées les fêtes de Noël, les marchés de Noël dans nos villes en France. Il y avait partout des blocs de béton, il y avait des murs, il y avait des contrôles.
Mais que proposez-vous pour les migrants qui sont sur le territoire français?
Je réponds juste après, mais on a supprimé les frontières
nationales.
Les blocs de béton,
c'est pour le terrorisme, pas contre l'immigration.
Attendez, on a supprimé les frontières nationales, oui, mais terrorisme aussi. On doit s'en protéger, mais notamment par les frontières nationales. On a supprimé nos frontières nationales, nos contrôles aux frontières. Résultat, on met des murs partout, dans nos vies, dans nos communes. Vous voyez le paradoxe terrible? Eh bien ça, il faut y mettre fin et on retrouvera y compris de la sécurité et de la liberté. Sur les personnes qui sont
déjà sur le territoire.
On regarde leur situation. Et si elles sont en situation totalement clandestine, la loi s'applique, elles doivent retourner dans leur pays. Si elles ont demandé à bénéficier de l'asile, c'est un beau principe, mais à condition qu'il ne soit pas dévoyé. Il ne doit pas être étendu à l'économique, au social, parce que là, on n'est plus dans l'asile.
Justement, suspendez juste votre phrase, écoutez ce que disait Emmanuel Macron mardi à Calais, on continue de parler de ça.
Je veux revenir ce matin devant vous, d'abord sur cet ordre public républicain que nous devons pleinement assurer ici à Calais. Ensuite, sur l'accueil que nous avons profondément transformé pour faire face aussi à nos devoirs. Tout est fait pour que le passage illégal vers le Royaume-Uni ne soit pas possible. Et je veux être ici très clair, cela continuera à être le cas.
Et il dit aussi qu'il faut conjuguer humanité et ordre républicain. C'est ce qui fait polémique avec la fameuse circulaire Collomb. C'est de trier dans les centres d'hébergement. Donc là, on a l'impression que l'humanité peut s'effacer dans ce cadre-là.
Vous remarquerez,
c'est tout ça
quand même,
qui fait polémique.
Vous remarquerez quand même qu'il confirme sa fake news de 2016. Hein, sur le Brexit et le passage des migrants, peu importe. L'humanité, mais vous savez... Le projet d'immigration massive n'est pas humaniste. Moi, je suis un humaniste. J'ai beaucoup de compassion pour les gens qui viennent. L'immigration, c'est toujours un drame humain. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Et je pense que personne ne quitte par plaisir son pays. ou dans de très très rares cas, quand ils sont concernés par ce cas-là. Mais moi, je dis attention, n'ayons pas une logique colonialiste à considérer qu'un immigré serait forcément heureux qu'en France. Essayons de travailler, et faisons beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui, mais avec l'ONU, avec les puissances régionales et les acteurs privés, en Afrique, sur le co-développement, sur l'électrification de ce continent. Travaillons au Moyen-Orient, sur la stabilisation politique et économique. C'est comme cela qu'on régulera aussi vraiment à terme les flux d'immigration.
Ça demandera du temps.
Oui, mais si on commence jamais, alors ça sera jamais fait. Et de toute façon, on n'y arrivera pas ici, même en rétablissant nos frontières nationales. Et puisque vous parliez des patriotes, on en parlera de tout ça et de tous les autres sujets. Je profite de le dire à Arras, lors de notre événement de lancement, un grand événement, le dimanche 18 février. Chacun peut s'inscrire en ligne sur le site internet des patriotes pour venir. J'incite tout le monde à le faire.
Combien d'adhérents avez-vous ?
6500 aujourd'hui.
Parce que le FN dit que vous en avez 300 à 400.
Ah oui, ou 30 même. Bon, moi, ce que je dis, c'est
que
nous...
C'est une fake news aussi ?
Oui, mais ça, c'est assez ridicule même. Non, nous sommes 6500 et nous progressons beaucoup. Et nous verrons à Arras le 18 février, chacun viendra et verra que c'est un bel événement. Le Front National, lui, en perd chaque jour. Ça, c'est pas une fake news.
On doit s'arrêter. Merci d'être venu ce matin sur France Info. Florian Philippot, président des Patriotes. Merci, Jannick Halimi, comme chaque samedi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, à samedi prochain.